Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, habituellement avec un blind test ou alors une interview, mais rien de tout ça aujourd'hui. Mais tout de même, 6 films et 2 films d'animation. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, un film d'animation chacun. Qui commence? Toi, Manu.
Donc, le film d'animation, c'est interdit aux chiens et aux Italiens. Et puis, je vous parlerai aussi d'une reprise, La Passagère.
Et puis toi, Guillaume, tu as un film oscarisable et puis un dessin animé.
C'est ça. J'ai Tar et Patty et la colère de Poséidon. À vous de deviner lequel est oscarisable.
Moi, je vous parlerai rapidement, bien justement, enfin justement, de box-office. Et quant à Marine, elle va nous parler de Retour à Séoul. Mais nous commençons avec une comédie. Et ce serait la première bonne surprise de l'année. Hein. C'est son avis à Marine. Et elle nous parle de Youssef Salem, a du succès. Comédie avec Ramzi Bedia, qui est pourtant avec un scénario rebattu. Allez, on écoute.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours.
Faut que je le dise à mes parents.
Youssef Salem est un écrivain de 45 ans dont les livres n'ont jamais marché, sans doute parce qu'il s'intéresse à des sujets un peu niches mais qui plaisent quand même beaucoup à son père. Car chez Youssef Salem, la famille, c'est sacré. Issu d'une famille d'origine maghrébine, il décide de s'intéresser dans son nouveau roman à la notion de désir sexuel et de culpabilité au sein de sa propre culture. Et pour cela, il va beaucoup s'inspirer de son vécu. Ce que Youssef n'avait pas prévu, c'est que le livre rencontre un immense succès. Il réalise soudain que ses parents vont devoir le lire. Et comme le disait si bien Philippe Roth, lorsqu'il y a un écrivain dans une famille, la famille est foutue. Youssef va donc monter les plus improbables stratagèmes pour éviter que son livre ne tombe entre les mains de ses parents.
Comment t'as pu écrire un torchon pareil?
Maman n'a jamais couché avec le maître nageur.
Je sais bien.
T'imagines si papa il tombe dessus?
Ouais.
T'imagines le début.
Tu mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête.
Ouais. Putain.
Ouais. Qu'on t'élimine.
C'est moi, l'auteur, Youssef Salem.
Je l'ai pas lu encore, enfin je vais le lire, hein, mais oui. Il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très très bien.
Eh ben justement, il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît.
Moi, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur.
C'est une question de vie ou de mort.
Le mensonge est un terreau fertile pour la comédie, la famille également. Car c'est la coexistence d'un amour fou et d'une exaspération folle qui produit de la comédie, comme l'explique Baya Kasmi, la réalisatrice du film. Baya Kasmi est une scénariste, réalisatrice et comédienne. C'est aussi peut-être la meilleure partie de Michel Leclerc, réalisateur du Nom des gens, qui a écrit avec elle tous ses films pour le Nom des gens, qui racontait, on le rappelle, comment une jeune femme très à gauche tentait de convertir à ses idées politiques les hommes de droite en couchant avec. Baya Kasmi s'était fortement inspirée de sa propre vie. Ici, dans son deuxième film en tant que réalisatrice, après Je suis à vous tout de suite, elle parle de la difficulté de la création quand on appartient à une minorité et que ce que l'on crée engage forcément aux yeux des gens sa propre communauté. Et Baya Kasmi réussit l'exploit de nous faire rire tout en relevant des aspects plus que pertinents de notre propre société. La sœur du personnage de Youssef, interprétée par Ramzi Bedia, qui est elle-même interprétée par Mela Bedia, la sœur de Ramzi, ce qui est un choix de casting plutôt cohérent, balance très justement au détour d'un dialogue. En France, tout le monde a un problème avec les Arabes, même les Arabes.
Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe, voilà. Zama, t'es écrivain, tu connais rien. Zama, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, elle est géniale.
Le critérium,
c'est
quoi l'exemple que vous voulez donner?
J'essaie juste, dans ce livre, de raconter l'histoire d'une famille en restant le plus lucide possible. Et il se trouve que cette famille, elle a des défauts.
Tu trouves pas que la vie, c'est tout petit peu plus grand que ça?
Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire.
Je suis grand-mère?
Non. Non, maman.
Youssef Salem a du succès est une comédie piquante et tendre qui ose aller loin qui est crue mais jamais vulgaire, une comédie qui ne cède à aucune facilité, que ce soit dans l'écriture des personnages, dans les situations ou dans ce qu'elle dénonce, mais toujours avec le sourire. Youssef Salem a du talent est une comédie qui a du cœur et c'est l'une des très belles surprises de ce début d'année.
C'est vous qui avez écrit ce bouquet magnifique là ?
Oui.
Je suis reconnue, je sais pas, cette famille.
Vous êtes une arabe ?
Ça vaut pas, non, ah ouais, je suis pas arabe. Non, moi je suis marseillaise.
Youssef Salem a du succès, est en salle depuis le 18 janvier. Passons maintenant à la descente aux enfers d'une chef d'orchestre, interprétée par Kate Blanchett, c'est Tar de Todd Field.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Si vous êtes ici, vous savez déjà qui elle est. Lydia Tar est multiple. Tar a commencé sa carrière de chef d'orchestre avec l'orchestre de Cleveland, l'orchestre symphonique de Chicago, l'orchestre symphonique de Boston, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin ici, chez nous, au Philharmonique de New York. En 2013, Berlin a choisi Tar comme chef d'orchestre permanente et c'est là-bas qu'elle est restée depuis lors. Lydia Tar a également écrit de la musique pour le théâtre et le cinéma. Elle fait partie des 15 que l'on appelle les EGOT, ceux qui ont remporté les 4 récompenses majeures dans le domaine du spectacle. Merci d'être parmi nous.
Merci à vous. Merci.
Il y a des réalisateurs qui font des films tous les ans ou tout du moins à intervalles réguliers et d'autres, comme Terrence Malick, qui disparaissent pendant 20 ans pour mieux revenir en fanfare avec un grand film et qui est tellement réussi qu'il ne manque pas d'être affiché partout. Alors Todd Field, lui, est bien moins connu. Et si Tar n'a, lui, aucun film à la thématique similaire pour lui faire de l'ombre, il devra néanmoins affronter le jugement des spectateurs qui devront composer avec un film exigeant, mettant en scène le portrait d'une artiste non moins exigeante et le tout durant presque 2h40. Alors Todd Field, il avait fait sensation il y a désormais presque 20 ans avec Little Children, une radiographie au vitriol d'une banlieue bourgeoise de la côte est des États-Unis et admirablement menée par le duo Kate Winslet et Patrick Wilson. Marchant sur les terres de Sam Mendes et de son multi-oscarisé American Beauty, il avait justement vu ce dernier essayer de reprendre la main sur ce genre de drame avec Les Noces Rebelles en 2009, lui aussi avec Kate Winslet. Et oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est Hollywood. Mais s'il est sûr d'une chose, c'est que la nature horreur du vide et celui de la filmographie post-Little Children est désormais comblée avec ce retour en fanfare. Ça tombe bien, vu qu'il est question d'une chef d'orchestre.
Si tu veux prendre part au bal, il faut que tu serves le compositeur. Tu dois te sublimer, toi, ton ego, et oui, ton identité. Tu dois te tenir devant le public et devant Dieu, et t'effacer totalement.
Si l'on ne peut pas dire que c'est le film de la consécration pour Kate Blanchett, habitué au portrait de femme à la personnalité profonde mais troublée, comme dans Intuition de Sam Raimi, Bernadette a disparu de Richard Linklater ou Blue Jasmine de Woody Allen, c'est néanmoins l'occasion pour la comédienne de prouver qu'elle est particulièrement à l'aise avec ce genre d'exercice auquel la profession y a été d'ores et déjà sensible, puisqu'elle a remporté la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la 79e édition de la Mostra de Venise et que les Oscars sont en train de se rapprocher. Alors Blanchett vampirise totalement le film dans lequel elle existe quasiment de la première à la dernière image, laissant parfois même reculer un montage plus découpé pour laisser place à des plans séquences impressionnants, confrontant un personnage intransigeant à un espace qui réclame lui aussi parfois sa place. Donc Tar ou Lydia Tar, c'est une chef d'orchestre qui voudrait tout diriger jusqu'à la 5e symphonie de Mahler qu'elle se réapproprie, mais qui va comprendre que sa vie et la vie n'est pas toujours quelque chose que l'on mène à la baguette. Alors au fil de la musique qui déraille à tout autant qu'elle se concrétise en prenant vie, celle de Tar va progressivement s'écrouler sous le poids des passions professionnelles et personnelles. Alors c'est l'antithèse totale d'un film musical classique tant la musique est en retrait, mais Tar n'a pas l'ambition de l'Amadeus par exemple, mais se rapproche presque du film noir, voire même dans ses thématiques du Bûcher des vanités de Brian De Palma, dans sa peinture acerbe d'une personnalité fascinante et pourtant pas forcément aimable. Alors on a connu pire filiation, surtout que le De Palma reste un film brillant à réévaluer d'urgence.
Ton avis donc corrobore, si je puis dire, à peu près toutes les critiques sorties sur ce film qui louent la prestance de Kate Blanchett, qui pourrait donc bien avoir un Oscar. On verra ce qu'il en est. Tar est en salle depuis le 25 janvier. La vie de la famille Huguetto, dont le destin les a poussés vers la France au début du 20e siècle, c'est Interdit aux chiens et aux Italiens, premier film d'animation de cette émission.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso.
Antonio ! Imbécile.
C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité.
Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France.
Dans la lignée des films d'animation d'inspiration documentaire en vogue, depuis le formidable Vals avec Bachir, sorti en 2008, jusqu'à l'an dernier, dont le très intéressant My Favorite Wear, interdit aux chiens et aux Italiens, titre qui prend tout son sens au milieu du film par une inscription à l'entrée d'un bar français, dresse le portrait sensible d'une famille d'immigrés italiens sur plus d'un demi-siècle. Alors le récit se situe au début du XXe siècle dans le nord de l'Italie, à Ughetera, berceau de la lignée des Ughetto. La vie dans cette région était devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l'étranger. Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils, le réalisateur Alain Ughetto lui-même, qui n'a même pas cherché à modifier les noms, retrace l'histoire sous forme d'un dialogue fictif avec sa grand-mère, à qui Ariane Ascaride prête sa voix.
Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ses ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout.
Ainsi, de manière très originale, le film combine prise de vue réelle, où l'on voit souvent les mains du réalisateur investir le champ de l'animation en stop motion, créant parfois une émotion vive. La singularité de cette épopée, croisant la grande histoire, dont les deux guerres mondiales et souvenirs intimes de pauvres immigrés, souvent rejetés par les Français, tient à ses choix formels souvent pertinents. La raideur de la mise en scène, tout en plan fixe, vise une simplicité qui fait écho au mode de vie modeste de prolétaires pris dans la tourmente de l'histoire. Alors le réalisateur décrit humblement le parcours chaotique et courageux de toute une génération à qui il rend un hommage vibrant. Il tente de faire coïncider alors son travail d'artisan avec celui de ses ancêtres qui mettaient la main dans la terre pour subvenir à tout le monde. Cette sincérité est hélas parfois plombée par un discours didactique en voix off, réflexion théorique sur le rejet des migrants qui bien sûr fait écho à notre société contemporaine. Alors d'autant que les personnages sont assez uniformes. Les hommes portent la moustache et sont bruns et les femmes ont des chignons. C'est quasi
stéréotypé.
Ouais. Plus embêtant, les visages sont quasi identiques, d'où parfois la difficulté de distinguer ces figures un peu ternes. Mais malgré tous ces défauts, dont on pourrait rajouter un petit manque de fantaisie, Interdit aux chiens et aux Italiens est un joli portrait de famille, très personnel, une plongée dans un passé rude qui évite malgré tout le misérabilisme. Alors juste pour signaler, le film n'est pas à regarder pour les moins de 10-11 ans, ça reste un dessin animé. À partir de la préadolescence et aussi pour les adultes.
Eh bien, le deuxième dessin animé dont il sera question tout à l'heure, lui, ce sera à partir de 6 ans. Voilà. Donc, Interdit aux chiens et aux Italiens est en salle depuis le 25 janvier. Revenons maintenant sur des classements qui sont sortis ces derniers jours.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Il y a peu, Netflix a balancé son top 10 des films et séries qui ont cartonné sur la plateforme. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler des meilleures audiences, mais des meilleurs films sur leurs 28 premiers jours de diffusion. Le grand gagnant pour les longs métrages est Red Notice, avec le trio Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Le long métrage diffusé en 2021 totalise 364 millions d'heures visionnées. Il devance Don't Look Up d'Annie Cosmic, l'espèce de farce qu'on a pu se coltiner, diffusé la même année. Le film porté par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, chargé d'avertir l'humanité qu'une comète va s'écraser sur Terre, a totalisé, lui, un peu plus de 359 millions de visionnages. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve Bird Box, le thriller d'anticipation avec Sandra Bullock. Suivent Glass Onion avec Daniel Craig et Edward Norton, The Gray Man, diffusé en 2022, qui réunit Ryan Gosling et Chris Evans, puis le film de science-fiction de Adam Project, toujours avec Ryan Reynolds, il est présent dans ce top 10 avec deux films. Et puis le classement s'achève avec Extraction, le film avec Chris Hemsworth, la romance Purple Hearts, The Unforgivable et enfin The Irishman, le film fleuve de Martin Scorsese qui donc est le dernier de ce top 10.
J'avoue que moi je suis un petit peu déçu parce que on oublie Six Underground, le film de Michael Bay produit par Netflix.
Qui l'a oublié? Les téléspectateurs.
Et il faut avoir du goût les enfants.
Alors autant de films qui datent de ces trois dernières années. Mais un autre classement est apparu ces derniers jours car il a évolué, c'est celui du box-office mondial des longs métrages de cinéma. Et l'intrus, c'est bien évidemment la voie de l'eau qui vient de franchir le cap des 2 milliards de dollars de recettes dans le monde et qui arrive à la 6e place, une place qu'il ne gardera pas longtemps car son succès ne se démentit pas. Il n'est qu'à quelques millions de dollars du 5e qui est Avengers Infinity War, qui lui a gagné un peu plus de 2 millions de dollars depuis 2018 et pas si loin que ça du 4e, l'épisode 7 de Star Wars, Le Réveil de la Force. Alors ça se corsera un peu pour atteindre la 3e place tenue par Titanic, la 2e tenue par Avengers Endgame et la 1ère place gagnée par Avatar du même Cameron. Mais d'ici peu, il est plus que probable que le réalisateur canadien place 3 de ses films dans le top 5 donc, du box-office mondial.
Et surtout que c'est fait pour rester, parce que tu rappelles que Titanic ressort dans 2 semaines au cinéma.
Oui, mais de là à ce qu'il grignote des places, peut-être pas suffisamment en tout cas. Les deux autres qui font partie du top 5 sont un Marvel et un Star Wars. Donc voilà la physionomie du cinéma mondial. À noter qu'un seul film de ce top 10 date d'avant les années 2000. C'est bien sûr Titanic, tourné en 1997. On notera aussi que 8 des films du top 10 appartiennent maintenant à Disney, depuis que le studio a quasiment tout raflé. Seul Jurassic World appartient à Universal et Spider-Man est une production de Sony, mais encore est une coproduction avec Disney. Donc voilà. Donc évidemment, il n'y a aucun film non américain dans le classement. À noter aussi, pour en terminer, qu'il y a 51 films qui ont gagné plus $1 milliard. Donc voilà, parce que c'est comme ça qu'on comptabilise le box-office, en tout cas au niveau mondial et pas en France. On parle de spectateurs, nous, Français.
Cinérama. Cinérama.
Adopté en France, une jeune fille retourne pour la première fois en Corée du Sud où elle est née. C'est Retour à Séoul de David Chou, le réalisateur qui avait signé l'excellent Diamond Island.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
C'est en accompagnant l'une de ses amies, elle-même née en Corée, mais adoptée en France, pour rencontrer son père à Busan, que le réalisateur David Chou a pris conscience des nombreuses barrières culturelles qui les séparaient, de l'incapacité à rattraper le temps perdu et des différences évidentes entre les émotions françaises et les obligations de la politesse coréenne. Pour son deuxième long métrage de fiction, il a donc décidé de raconter une histoire similaire, hein, une quête, une tentative de reconnexion entre Frédéric, Freddy, une jeune femme de 25 ans qui part sur un coup de tête à Séoul et ses parents biologiques qui l'ont abandonnée au moment où la Corée était encore un pays pauvre lorsque confier son enfant à des parents français apparaissait parfois comme la meilleure issue. On pourrait penser que sa rencontre avec ses parents biologiques qui arrivent très tôt dans l'histoire va refermer une certaine blessure chez Freddy, mais bien sûr, les choses ne seront pas aussi simples. Le récit se déroule sur 8 ans. Le personnage de Freddy va passer par plusieurs phases et faire plusieurs allers-retours entre Paris et Séoul, passant de la jeune femme guerrière à l'oiseau de nuit qui cherche à brûler ses doutes et ses angoisses dans les fêtes de Séoul, pour enfin trouver un apaisement qui n'est sans doute que fin. En sortant de la projection presse, j'ai entendu un journaliste qui avait à peu près l'âge d'être le père du personnage féminin dire à son collègue, en parlant de Freddy, « Mais qu'est-ce qu'elle est égoïste ?» Et bien qu'un peu agacé moi-même par cette réaction qui n'avait pas grand-chose d'une critique cinématographique, je n'ai pu m'empêcher de comprendre son point de vue, car le personnage, en effet, n'a pas du tout été écrit de sorte à être aimable, plaisant. Il est réaliste, c'est un personnage avec de vraies aspérités. La comédienne principale, Park Ji-min, dont c'est le premier rôle, qui interprète donc Freddy, a beaucoup questionné le réalisateur sur les clichés qui entouraient son personnage, un personnage féminin écrit par un homme donc, et soucieuse de ne pas s'enfermer dans un stéréotype ni dans un fantasme, elle a apporté son avis sur le rôle, elle a beaucoup fait évoluer de l'aveu du cinéaste qui explique également « Je voulais faire un pas de côté par rapport à ce que l'on attend de la représentation des personnages féminins asiatiques dans les films. Souvent, ce sont des héroïnes délicates dont on irait filmer l'intérieur. Là, on a un personnage qui explose, qui ne fait pas plaisir, qui gratte.
Tu ne connais vraiment rien de la Corée ?
Non, rien.
Where are you from ?
France.
이분 전국적인 한국인입니다.
Come back.
C'est la seule chose qui me reste de la Corée.
C'est ta mère ?
Biologique, je pense, oui.
Tu vas essayer de retrouver tes parents ?
Non.
Pourquoi non ?
He has to understand that I'm French now.
T'es aussi un peu coréenne.
Si le manque d'expérience de la comédienne se ressent parfois dans son manque de nuances, elle a une vraie présence, une générosité dans son implication et la lourde tâche de porter ce film en la compagnie de Oh Kwang-wook qui joue son père coréen et que l'on connaît bien lorsque l'on affectionne le cinéma de Park Chan-wook puisque l'acteur est présent dans plusieurs des films du maître.
J'ai eu envie de tout foutre en l'air aujourd'hui.
Ça, je connais.
Et tu fais quoi dans ces cas-là ?
Je fous tout en l'air.
Mais touche pas !
David Chou a choisi de ne filmer que la Corée. On ne verra jamais Freddy en France. Et au travers des yeux de ce personnage, eh bien, c'est toute la culture sud-coréenne que l'on découvre de façon heureusement assez subtile, car nous ne sommes pas dans un film avec Christian Clavier. Le rapport à la famille, la nourriture, à l'alcool, aux sentiments, tout cela est abordé, mais sans jamais entrer dans le comique de situation. Et puis, David Chou a décidé de prendre le contre-pied du film de voyage en ne filmant pas de paysage, ou si peu. Le film se passe beaucoup en ville, à Séoul, mais dans des espaces clos, confinés, dans des hôtels, des bars, des restaurants. Cela peut apparaître comme un peu frustrant, mais finalement, c'est sans doute la meilleure manière de raconter un voyage vers ses propres racines, un voyage intérieur.
J'ai 27 ans aujourd'hui. Et je me suis toujours posé la même question le jour de mon anniversaire. Est-ce que ma mère a une pensée pour moi ?
Retour à Séoul de David Chou est en salle depuis le 25 janvier. Production des studios TAT basés à Toulouse, Patty et la colère de Poséidon nous emmène auprès de Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité, bien aidés par un chat et une souris. C'est le deuxième film animation de cette émission.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne.
Mais où tu vas ?
Patty !
Tenez-vous prêts ! En route pour la vie ! À chacun son truc.
La vie s'écoule paisiblement à Iolcos, un bel et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. En effet, ce dernier s'offusque de ne pas être célébré comme il se doit par les habitants de ces lieux et lance un ultimatum dont l'issue pourrait voir arriver l'éradication pure et dure de Iolcos. Donc Poséidon est jaloux du fait que Zeus soit idolâtré par la ville de Paty et il laisse 7 jours à la ville de Iolcos pour lui bâtir une statue aussi belle et grande que celle de Zeus où il noiera les habitants. Donc c'était sans compter sans Paty, une petite souris qui baigne dans la gloire des plus grands récits mythologiques et qui, loin de sa condition de rongeur, voudrait elle aussi vivre des aventures épiques et devenir une héroïne à part entière. Alors ça tombe bien, car justement, son modèle est Jason, celui qui a ramené la toison d'or, et elle veut naviguer sur l'Argo qui est convoqué en ces temps houleux pour sauver la situation. Jason est là, il a apporté la prospérité en ramenant la toison d'or, mais il est désormais un vieillard, et si sa fougue est toujours présente, il est désormais bien trop croulant pour mener à bien une mission de cette envergure qui implique quand même un sacré choc des titans. De plus, l'Argo a quand même bien moins fière allure depuis que les Argonautes sont tous morts. Donc la catastrophe annoncée est bel et bien sur le point de se produire, mais Patty va prendre le devant et, en essayant de sortir de sa condition, va prouver sa valeur, littéralement défier les dieux dans la joie, la bonne humeur et dans une aventure menée tambour battant qui va malmener les icônes établies, divines ou non.
Y'en a qui adorent la cuisine, y'en a c'est devenir ninja.
Waouh, cette maîtrise de fou.
Mais le héros que je préfère, c'est Jason. Il a ramené la toison d'or, tenant ses pouvoirs de Zeus lui-même.
Ma colère est immense. Vous avez quand même fait une grosse boulette. Vous êtes en train de vous dire, elle est où la boulette ? Eh ben, elle est là, la boulette ! Je vous laisse 7 jours pour me faire une statue aussi belle que celle de mon frère. Allez, fillette, tout le monde compte sur nous.
Patty et la colère de Poséidon, on l'a compris, donc est un beau prétexte pour revisiter la mythologie et effectuer une relecture de l'Antiquité de façon savoureuse. Alors doté d'une animation impeccable qui n'a absolument rien à envier à des productions plus onéreuses, Patty a non seulement du cœur, mais aussi une volonté de bien exploiter tout son décorum de façon intelligente. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que le film devienne une sorte de petite référence pour les parents voulant initier leurs plus jeunes enfants à la mythologie, ses héros, ses divinités, mais aussi ses monstres. On y aperçoit une bonne partie du bestiaire mythologique convoqué et reconditionné de façon amusante, tels les cyclopes, les chimères ou encore les hydres, le tout de façon très abordable, de façon assez ludique et toujours dans la bonne humeur. Alors les plus grands dont je fais partie ne seront pas en reste car la grande intelligence de Patty et la colère de Poséidon est de faire de ce film d'animation un film pour toute la famille. Les rires sont nombreux, les situations d'aventure et les frissons, de plaisir, sont réguliers et l'on peut dire qu'avec ce long métrage on assiste probablement au sommet de ce que TAT Productions est capable de faire. Alors si leurs précédents efforts étaient tous très louables, ils étaient parfois victimes d'un soit d'un ventre mou, soit d'un public un peu mal ciblé sur la longueur, ou alors d'une intrigue pas toujours passionnante de bout en bout. Alors, je pense par exemple à Tara Willi. Bah, Patty, lui et ou elle, hein, s'avère être l'héroïne idéale pour le film et pour le studio. Tout y est bien calibré, rythmé, avec son lot d'émotions et de rebondissements. Même les séquences musicales, d'habitude gênantes dans les films d'animation contemporains et auxquelles Patty n'échappe pas, alors, il y en a une, hein, par exemple sur une musique de l'agence Tourisque, donc sont contrebalancées par une musique originale, elle, vraiment très réussie. Bref, en France, on n'a pas les As, mais on a les Tats. Et Eric Tozzi, hein, David Allo et Jean-François Tozzi, bah, à force d'efforts et de bonnes entreprises, hein, bah, ont fini par ériger leur montagne, bah, qui a accouché d'une souris. Une souris diablement sympathique que l'on espère revoir une prochaine fois et qui sait, bah, peut-être aux côtés de notre grand héros antique.
On peut affronter les créatures les plus terribles, surmonter des épreuves impossibles. On est une famille.
Patty et la colère de Poséidon, film d'animation français, est en salle depuis le 25 janvier. A noter que ce film d'animation est visible à partir de 6 ans, mais que 5 ans et demi, ça passe. Retour sur l'histoire d'une jeune femme employée dans un camp de concentration nazi au détour d'une croisière. C'est La Passagère.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
La Passagère, sans être un cas unique dans l'histoire du cinéma, confirme qu'une œuvre inachevée, terminée par un tiers, peut parfois atteindre des sommets, tant sur le plan narratif qu'esthétique. Le réalisateur Andrzej Mumk, figure importante mais méconnue du renouveau du cinéma polonais des années 50, succombe d'un accident de voiture en 1961 en plein tournage. Son fidèle collaborateur et ami Witold Lesiewicz termine le film en 1963, usant d'un procédé à la fois modeste et génial, fruit d'une extraordinaire intuition créatrice. Il décide de ne pas filmer les séquences au présent du film, hein, ce qui n'avait pas été tourné donc auparavant, mais de réaliser, bah, un vrai roman photo à la manière de Chris Marker dans La Jetée. Ce choix plus délicat que radical instaure une atmosphère quasi fantomatique dans la partie contemporaine, interlude nécessaire au sujet central d'un film sur la Shoah, réflexion passionnante sur la responsabilité des criminels de guerre. Le réalisateur aborde alors le récit sous un angle pertinent. Les films sur les nazis, d'habitude, adoptent le plus couramment, en fait, le point de vue d'une victime reconnaissant, alors par exemple, des années plus tard, son bourreau, comme l'avait bien mis en scène, si bien mis en scène, Polanski avec son très anxiogène La jeune fille et la mort. Or, La Passagère propose une situation inverse, plaçant d'emblée le spectateur dans une position inconfortable qui évite l'indécence grâce à la fixité des images, distanciation nécessaire pour apprécier le film. Alors, ces images nous montrent une belle femme allemande, Lisa, en croisière sur un paquebot transatlantique. Elle est en compagnie de son mari, profitant de vacances luxueuses. Durant ce séjour, un événement inattendu se produit. Elle croit reconnaître une ancienne détenue d'Auschwitz, Martha, qu'elle pensait morte alors qu'elle, elle était capot. Elle avoue à son mari américain, ignorant tout son passé, qu'elle n'était pas une rescapée des camps, mais une surveillante SS, contrairement à ce qu'elle lui avait dit. Elle se justifie dans un premier temps, lui assurant qu'elle n'a jamais fait de mal à personne, lors d'un récit subjectif, nous renvoyant quelques années auparavant dans les camps. Mais le point de vue se déplace et la vérité nous est contée de manière très différente de ce qu'elle a tenté de justifier. En réalité, elle était une fervente nazie, prenant un plaisir à la fois sadique et empreint de frustration à instaurer un rapport de domination, notamment avec Martha qui a toujours refusé la soumission. Alors s'appuyant sur un dispositif théorique mais finalement plausible, Andrzej Mumk ne fait pas du nazisme une idée abstraite, une pure construction mentale dont la représentation physique et matérielle nous échapperait. Il inscrit cette idéologie meurtrière au cœur du réel, montrant une femme qui n'a rien d'un monstre, hein, ayant participé à l'Holocauste sans mauvaise conscience, effrayée seulement d'être reconnue. Lisa déroule son récit sans affect, justifiant ses actes par son métier, telle une fonctionnaire obéissant à de simples ordres. Alors le cinéaste décortique la banalité de l'horreur avec une puissance d'expression rarement atteinte au cinéma. Lorsqu'il s'agit de montrer frontalement le quotidien dans les camps, les photogrammes laissent place à une mise en scène somptueuse et pourtant très pudique. La rigueur des cadres, hein, dont un magnifique scope noir et blanc, instaure une tension et une terreur qui parviennent à rendre contemporain ce passé très incarné, laissant hors champ ce qui doit l'être. L'horreur n'est pas montrée, mais réactivée par des représentations que le spectateur se fait de l'Holocauste. Alors d'une modernité absolue et d'une utilité exemplaire, La Passagère, ramassée sur une durée de 62 minutes, est un grand film résistant, bah, sur la mémoire, à travers le récit douloureux d'une sombre page de notre histoire qu'il ne faudrait jamais oublier. Alors le film est accompagné aussi d'un documentaire sur le tragique destin donc, du réalisateur Andrzej Mumk, revenant donc sur un tournage brutalement interrompu avec des témoignages précieux, notamment bah, de ses disciples, Roman Polanski et Andrzej Wajda.
La Passagère, donc, c'est une reprise en salle depuis le 25 janvier.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec un peu moins de films. Guillaume, ton menu.
Oui, alors moi, je suis encore dans l'animation. Je vais vous parler de Maurice, le chat fabuleux, d'après un roman de Terry Pratchett, et la ressortie de l'aventure de Madame Muir, un chef-d'œuvre absolu.
Et toi ?
Un petit film américain indépendant, une comédie, un Ghost Therapy.
Et nous aurons un blind test la semaine prochaine.
Cinerama. 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 Cinerama.